Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, toutes et à tous, je crois qu'on va commencer. Normalement, je ne suis que traductrice, c'est la première fois que je fais une modération de table ronde, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc je vous présente mes camarades. Aujourd'hui, nous avons Barbara Sadoul, Alain Grousset, Victor Dixon, ça va, Dixon, Emmanuel Chastelière. Je vous les présente vite fait, et puis après, je les laisse parler, on rebondit. Si vous avez des questions, vous levez la main, même si c'est ça y est, j'ai l'anglais qui revient. Pendant la conversation, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. On essaye de faire ça un peu interactif, je sais pas, on va voir. Normalement j'enseigne, alors on va dire que vous êtes mes étudiants, ça se passera peut-être mieux. Donc on a Barbara Sadoul, qui est une auteure jeunesse, spécialiste du fantastique. Elle est aussi comédienne et prof de théâtre. Elle se rend régulièrement dans des écoles, collèges et lycées pro, et elle anime des ateliers d'écriture et de théâtre. Elle parle beaucoup de vampires, elle a écrit des anthologies, des garous aussi, donc ça colle parfaitement au titre.
Bonjour à tous.
Ensuite, on a Alain Grousset, qui était critique au magazine Lire. Il a entre autres réalisé, donc en collaboration avec Denis Guillot et Stéphanie Nico, directrice artistique des Imaginales, le dictionnaire de la science-fiction et une anthologie de monstres qu'on a ici. Si vous ne l'avez pas acheté là. Et on... Non, oui. On lui doit aussi... Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là, on ne va pas se mentir. On lui doit également plus d'une cinquantaine de romans et de nouvelles, dont près de la moitié en collaboration. À côté de moi, on a Victor Dixon, qui était le coup de cœur 2014 des Imaginales, avec son premier roman, Le cas Jack Spark. C'était une tétralogie qui relate les aventures d'un ado insomniaque. Peut-être qu'on va parler de ça. J'espère, qui découvre sa nature mutante dans un camp de rééducation dans lequel règnent la tyrannie, la peur et la violence. Je ne sais pas comment on peut sauter de ça au garou, mais on va trouver. Et on a Emmanuel Chastelière, qui a fondé en collaboration avec ses amis le site elbakin.net, qui est dédié à la fantaisie sous toutes ses formes. Ça n'a cessé de grandir et d'évoluer, et je crois qu'aujourd'hui on peut dire que ça s'est imposé comme une référence solide dans l'univers français de l'ASF. Ils ont beaucoup de chroniques, de romans, de BD, ils ont des interviews, des concours, et un forum vraiment très dynamique, et je veux le noter, c'est animé par des bénévoles. Voilà, moi je trouve ça important, je sais pas, vous allez me dire non, mais voilà. Donc on est là pour parler des vampires, des loups-garous et d'autres créatures. Je ne sais pas qui veut commencer, ceux qui ont des anthologies, peut-être vous voulez nous parler de... Vous avez choisi quoi, pourquoi, qui?
Alors, bon, cette anthologie du monstre, effectivement, c'est venu avec Stéphanie de l'idée que c'était l'anniversaire de Frankenstein et essayer d'enlever un petit peu ce côté fantastique à Frankenstein que nous rattachons à la science-fiction puisque c'est un homme recomposé, mais enfin qui participe vraiment à l'état l'état d'esprit du monstre. Et en parlant à Hachette, elle m'a dit bah oui, non, mais on préférait que vous élargissiez le thème en parlant donc du monstre. Donc, bon, bah, comme tout monde anthologiste, on va dans sa bibliothèque et on commence à bouquiner des tonnes de nouvelles qu'on ne garde pas parce qu'elles sont trop grosses ou obsolètes, etc. Puis après, comme c'était un inventaire aussi chronologique, on va des plus anciennes jusqu'aux plus modernes. Et à la fin, il nous est resté de la place, et c'était déjà voulu dès le départ, pour de jeunes, talentueux auteurs, mais surtout aussi en leur demandant de boucher des trous que l'on n'avait pas trouvé, nous, dans les textes existants. D'où Victor a participé depuis New York à l'élaboration d'une nouvelle. Donc voilà, donc, ça, je peux en parler après.
Barbara ?
Alors moi, c'était après mes études à la fac où j'avais étudié La solitude du vampire et après Le loup-garou dans la littérature française et anglo-saxonne, où donc j'avais, et puis grâce à la bibliothèque familiale, puisque mon père Jacques Sadoul avait à disposition énormément de Werthels, donc des pulps, où il y avait toutes les nouvelles inimaginables qu'on pouvait pas trouver facilement sur les loups-garous, donc que je me suis dit, il faudrait pouvoir les publier en français pour pouvoir les faire découvrir aux lecteurs. Mais ma première anthologie, là j'ai d'abord pensé aux lecteurs lycéens ou collégiens en me disant qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils vont lire en réunissant tous les textes qui sont déjà étudiés. Et on l'a fait en y songeant avec une amie, Nathalie Sanfourche, qui joue avec moi au théâtre maintenant. Donc on n'était pas seulement à la fac ensemble, mais aussi on joue ensemble maintenant sur scène. Et on s'est dit quels textes sont étudiés par les professeurs. Et le but de Librio, c'était de mettre aussi des textes qu'ils n'allaient pas connaître, puisque le lecteur, en plus c'était à 10 francs à ce moment-là, pouvait se montrer curieux et en découvrir plein d'autres. Et parallèlement, j'ai fait les 100 ans de Dracula, puisque ça coïncidait pas avec l'anniversaire là, de Frankenstein, mais avec l'anniversaire de la sortie du roman de Bram Stoker. Donc ça tombait pile bien quand j'ai eu fini d'écrire les 600 pages sur les loups-garous. Le directeur de thèse m'avait dit « Surtout repose-toi maintenant », et j'ai enchaîné sur deux anthologies, Dracula et La dimension fantastique.
Victor, vous voulez nous parler de cette nouvelle ?
Oui, alors cette nouvelle et le monstre de manière générale, on parle de vampires, moi j'ai adoré les romans d'Anne Rice par exemple, parce que le monstre c'est quelque chose, c'est l'altérité aussi, c'est quelque chose de mystérieux, ça attire, il y a une séduction du monstre. Mais il y a une autre dimension que peut-être j'ai plus traitée en tant qu'auteur dans cette nouvelle et dans ma première série, Le cas de Jack Spark, c'est que le monstre c'est la différence. C'est aussi ce qui n'est pas nous, ce qui est différent de nous. Mais le paradoxe, c'est que chacun d'entre nous, on a aussi pu se sentir différent à un moment donné des autres, de tous les autres, au sein de sa famille, au sein de la société dans laquelle on est. Moi, c'était mon cas adolescent, parce que notamment, je réussissais pas à dormir. J'étais très insomniaque, comme mon héros, Jack Spark, et j'avais l'impression d'être monstrueux, vraiment. Et du coup, j'ai mis ça dans mon premier roman. On dit souvent qu'un premier roman, c'est une dimension autobiographique peut-être plus forte. Et mon héros Jack Spark, qui a 15 ans, qui ne peut pas dormir, qui a essayé tous les traitements, va se retrouver envoyé dans ce camp de rééducation dont vous parliez en introduction. Et il va se rendre compte petit à petit, au fil des séances de thérapie toutes plus étranges les unes que les autres qui sont appliquées, qu'il est vraiment, intrinsèquement, au cœur de sa nature profonde, différent et monstrueux. Et comment est-ce qu'il va... prendre en compte cela, comment est-ce qu'il va évoluer à partir de cette prise de conscience, c'est l'objet du roman. Et à une moindre échelle, dans le cadre de la nouvelle que j'ai écrite dans l'anthologie du monstre, qui s'appelle Jour de gloire, c'est une variation sur le thème du Minotaure, mais du point de vue du Minotaure, du point de vue d'une créature hybride, monstrueuse, mi-humaine, mi-taureau, qui a été élevée dans un labyrinthe pendant toute sa vie et qui pense que son jour de gloire est arrivé, c'est-à-dire le jour où il va s'affronter dans une arène avec un chevalier. Il a été en fait élevé uniquement dans cet objectif et on lui a promis que s'il réussissait à vaincre le chevalier, ou plus exactement le prince dans la nouvelle, eh bien il aurait la liberté. Mais est-ce qu'on lui a dit la vérité? Est-ce qu'on lui a menti? C'est l'objet de la nouvelle.
On ne raconte pas la fin, il faut que les gens la lisent. Alors, on parle de monstre. Emmanuel, vous voulez?
C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'anthologie, j'ai pas de vampire, j'ai pas de loup-garou. J'ai des fantômes, si vous voulez, dans mon roman chez Scrineo. Achetez-le, je vais répéter aussi le mot d'ordre. Non, par contre, j'ai aussi une sortie, un livre, L'Empire du Léopard, chez Critique, où j'ai abordé un peu la figure du monstre, on peut dire, à travers... Enfin, c'est plutôt une revisite de la figure de la fée, qui pour le coup n'a rien d'un petit être malicieux ou en tout cas porteur de bonnes nouvelles, même si aussi la mauvaise fée bien sûr. Alors on est plus dans cette optique là avec plus un questionnement sur la créature animale, dans ce que ça peut être, l'instinct simplement du chasseur par exemple, et puis aussi ce qui m'intéressait c'était chez le monstre, c'était la peur qu'il peut faire naître et souvent aussi une certaine fascination qui peut en découler. Voilà, c'était des thèmes qui m'intéressaient en ce qui me concerne.
On t'a dit qu'il fallait qu'on se débrouille. Ce qui est intéressant aussi avec le thème du monstre, c'est qu'on est toujours le monstre de quelqu'un, comme a dit Victor, mais on est aussi un monstre. Chacun a une part assez sombre de soi-même et une certaine monstruosité. Donc c'est pour ça que ça, on aime bien regarder encore des monstres encore plus durs que nous. Mais c'est ça qui fascine aussi cette lecture. Alors le monstre, ça peut être l'ethnie ou la religion ou la couleur de peau. On perçoit ça comme quelqu'un de monstrueux par rapport à soi-même. Mais on a besoin d'avoir un petit peu des peurs un petit peu à côté pour se sentir un peu plus normal et refouler un peu au fond de soi-même la part de monstruosité que nous avons tous à l'intérieur de nous. C'est beau ce que j'ai dit.
Bon. Il y a le roman Je suis une légende, justement, de Richard Matheson, où, comme c'est les retombées sans doute d'une guerre atomique, tout le monde se transforme en vampire, sauf un, Robert Neville. Et il y a les mutants de première génération qui, visiblement, sont des monstres, mais les autres, ils évoluent vraiment. Et du coup, lui, en restant l'être humain, bah, c'est le seul. La normalité, il dit, elle appartient au plus grand nombre et donc finalement elle est devenue un monstre. Et puis moi j'ai pensé par rapport à ce que tu disais Victor, à Journal d'un monstre aussi, qui est une excellente nouvelle de Matheson aussi, où là on est vraiment dans la tête du personnage et avec beaucoup d'émotions, puisque c'est ses mots, c'est un enfant monstre en plus qui vit dans la cave et c'est ce qu'il ressent, ce qu'il ressent de ses parents, et c'est l'une des nouvelles fantastiques, moi, que j'ai étudiée à la fac, qui m'a donné envie de continuer sur le fantastique aussi.
Oui, c'est vrai que le fait de mettre en scène des monstres montre aussi que les auteurs jouent là-dessus, sur cette ambiguïté, comme toi tu as pris le point de vue du monstre, pour simplement renvoyer la monstruosité aux gens qui sont en face, qui se pensent normal.
Mais comme tu disais, le monstre sert à définir la normalité en fait, c'est un repoussoir. On est normal, pourquoi ? Par la négative, parce qu'on n'est pas monstrueux, on n'est pas le monstre. Et là où ça devient intéressant, c'est que le monstre peut aussi challenger la normalité. Il peut la remettre en question, notamment quand on inverse la perspective, qu'on se met du côté du monstre. Ou même, on parlait de l'œuvre fondatrice Frankenstein, quand on voit les réactions des humains normaux face à cette créature hybride, parfois elles sont pas vraiment humaines, ni accueillantes, et assez monstrueuses d'un point de vue moral.
C'est les tout débuts de la chirurgie esthétique, hein, finalement.
Oui, on peut voir ça comme ça aussi. Il y a des ratés.
Alors, on va rester quelques minutes sur les vampires et les garous. Après, on peut passer aux fées, par exemple. On parle d'hybridité aussi, la différence, etc. Donc, on a cette image, effectivement, de la fée clochette, j'imagine, les images populaires. Bon, vous nous parlerez de vos vilaines fées. Moi, je suis en littérature amérindienne, le Canada, les États-Unis, et je regarde l'usage par ces écrivains-là des monstres classiques euro-américains. Donc, par exemple, le vampire ou le garou. Il y a des traditions de lycanthropie, par exemple, dans l'État de Washington, sur la côte atlantique. Mais non, ils écrivent très peu là-dessus. Ils utilisent nous, en tant que colons européens, nos mythes pour les retourner contre nous. Vous disiez le monstre, c'est l'autre, mais après c'est nous qui est hybride, qui est, ouais, voilà, Anne Rice, ouais, exactement. Alors par exemple, je voulais vous demander dans nos anthologies, comment définir et organiser ces monstres qui sont à la fois les monstres qu'on connaît, ils sont à la fois des monstres différents, donc par exemple des lycanthropes amérindiens. Quand on regarde des définitions, voilà, on fait une anthologie, on fait un dictionnaire. Comment est-ce que vous nous parlez de cette hybridité, ou comment vous voudriez qu'on puisse parler de cette hybridité? Je sais pas.
Ah la vache, je suis.
Désolée, c'était un peu ma question personnelle, ça m'intéresse pour mes études, alors hop, je la pose.
Tu sors, s'il te plaît. C'est en direction de la jeunesse. Ouais. Donc on ne va pas aussi profond que ça. Mm-hmm. C'est simplement à montrer les différentes facettes du monstre. Et donc leur faire découvrir toute cette palette, parce qu'ils ne connaissent que les films ou les dessins animés, mais donc leur montrer ça, mais surtout leur parler à eux de la définition même du monstre, justement, c'est de ramener ça, attention, l'autre en face, qui peut être boiteux, qui peut être moche, qu'on considère à l'école comme
un monstre. Ou extrêmement séduisant, comme Victor le disait.
Et donc, de lui dire, non, regarde d'une autre manière la personne qui est en face de toi, ne la considère pas tout de suite comme un monstre. Et parce que là, d'un seul coup, la peur s'installe, donc le rejet. Et donc, souvent, peut-être essayer de le tuer ou de l'écarter à l'école. Et voilà mon but, moi, dans cette anthologie. Hein, ce n'était pas non plus de trop en profondeur.
Ça me fait penser à ce que tu dis. Il y a un livre aux États-Unis qui a été adapté en film. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en France. Le titre, c'est « Wonder ». C'est un petit garçon qui est défiguré et c'est son premier jour à l'école. Et en fait, il peut apparaître monstrueux, effectivement, par rapport à la normalité, par rapport à sa difformité faciale. Il est obligé d'aller à l'école avec un casque de moto. Mais le choix du titre du livre est très révélateur. Wonder, ça veut dire merveille. Et on passe assez facilement du monstre à la merveille. C'est deux choses uniques, différentes, qui sont en dehors de la normalité. Et finalement, c'est le regard des autres qui va qualifier cette différence de monstrueuse ou de merveilleuse.
J'ai un souvenir d'anecdote. J'ai vu des milliers d'enfants et des milliers de classes. Et la classe qui m'a le plus frappé, on m'a demandé si je voulais rencontrer 12 handicapés moteurs accompagnés de 12 personnes. Donc ces enfants étaient très très lourdement handicapés avec les bras crochus. Et les plus belles questions que j'ai eues sur mon livre, c'était eux qui les ont posées. Et d'un seul coup, de se rendre compte, alors bon, il fallait 10 minutes pour qu'il la pose, la question, hein, mais au moment où il recevait ça, d'un seul coup, je prends conscience que je suis en face de 12 têtes enfermées dans 12 putains de corps, quoi. Et donc d'avoir en face de soi un étalage de monstres, et en fait, non, d'esprit absolument brillant, parce qu'ils étaient tellement brillants que cet institut spécialisé était très très informatisé et le directeur dépensait, je crois, 60 000 euros par an pour la maintenance de tout le système informatique. Et ces enfants-là ont été voir le directeur, ont dit nous on s'occupe de tout. Ça vous fera économiser 60 000 euros. Et donc le directeur a dit ok. Et avec ces 60 000 euros, ils allaient chaque année faire un voyage. Et ces handicapés sont partis à New York, par exemple. Hein, donc avec toutes les difficultés que ça pouvait représenter, mais grâce à cet argent gagné. Et là, on prend une sacrée claque en pleine figure. Hein. Et la seule chose qui m'a fait vraiment de plaisir à la fin, c'est qu'une fois que ça sonnait et tout, avec leur chariot roulant, ils essayaient de passer à 2-3 dans la porte en même temps. Et moi, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, bon, allez, c'est encore des gosses. Les autres essayent de passer avec leur cartable en force, et ben eux, c'était avec leur fauteuil. Donc, ils étaient encore cet esprit enfant.
Barbara, vous travaillez aussi avec des enfants, vous faites des ateliers théâtre. Vous me parliez au début de la table ronde de leur parler de vampires, d'écrire pour eux sur les vampires. Comment ça se passe quand les enfants réinventent un peu, comment est-ce qu'ils s'approprient cette figure ?
Alors, dans les ateliers théâtre, on ne parle pas forcément de vampires, parce que là, c'est des ateliers à l'année, et j'ai des élèves que je peux avoir, je ne sais pas moi, 8 ans, ou j'ai leurs parents après. Donc là, on va aborder selon le thème qui va ressortir du groupe. Donc ça peut être du polar, ça peut être plein de thèmes différents. C'est plutôt quand je vais dans les classes où on va aborder le fantastique. Et justement, ça va leur permettre, et dans des classes en difficulté, de se sentir très doués, parce qu'ils ont tous des idées. Et pour ceux qui ne pourraient pas écrire, c'est arrivé, justement, je leur dis, c'est pas grave, je suis ta secrétaire personnelle, tu peux me dire tes idées. Et il sort toujours quelque chose d'extrêmement bien. Il suffit de commencer par une carte d'identité d'un personnage fantastique, en mettant plein de détails rigolos, et ils vont trouver déjà un personnage, les mettre à 2 ou 3 s'ils le souhaitent. Et après, il y a un début d'histoire qui arrive. Pour d'autres plus grands, ça va être par exemple dessiner, faire des bulles des BD pour ceux qui veulent. D'autres, passer par le dessin, c'est raconter vraiment une histoire et la raconter des fois en roman photo. Donc il y en a qui vont finalement aimer prendre des photos. D'autres, comme je leur ferai comme un petit atelier théâtre avant, voilà, ils vont s'amuser, prendre plaisir et prendre confiance en eux aussi. Et certains continuent à écrire après ou poursuivent l'histoire, me les envoient. Voilà.
Et un truc génial à faire avec les enfants, c'est qu'ils fassent leur portrait du monstre, qu'ils choisissent quel monstre ils vont être. Et finalement, c'est une sacrée autocritique d'eux-mêmes. Donc, il y en a qui vont aborder sur le côté physique, ou exagérer leur côté physique. D'autres qui vont se doter de pouvoirs plus ou moins grands et maléfiques. Mais c'est très, très révélateur avec les personnalités. Et souvent, les profs, moi, j'ai déjà fait ça 1 ou 2 fois, on apprenne beaucoup sur les élèves.
Les profs en monstre, parfois.
Oui, ça, mais oui. Ça.
Moi, je leur demande, oui, c'est vrai, j'ai jamais osé par ce biais-là, mais je leur demande d'inventer un monstre, voir un ami, s'il est solitaire, oui, ou. Et pourquoi à ce moment-là ? Donc là, ça va donner une histoire, mais sinon, d'inventer un ami qui peut être humain et de le décrire, voilà, de faire. Puisque j'aime bien, moi, c'est justement l'invitation à la tolérance. Si on parle du monstre, Richard Matheson, c'est un de mes préférés comme auteur, parce que là, c'est vraiment pour inviter les gens à vraiment être tolérants.
Alors, je vais retourner un petit peu, on parlait d'hybridité, de. Vous avez plus d'amis que nous. Ouais. Par la fenêtre, hop. On parle de l'hybridité, la différence. Voilà, on parle des monstres, vous répétez, ils sont boiteux, ils sont moches, ils sont laids, ils sont différents. Emmanuel, si vous voulez nous parler un peu de vos fées, parce qu'on a cette image de, voilà, classique de la fée, elle est belle, elle est mignonne, elle est gentille. Alors, comment est-ce qu'on fait une fée monstrueuse ?
Je pense en fait que quelque chose qu'on aime tous faire, peut-être en littérature, c'est aussi essayer de jouer ou de détourner les clichés, ou d'aborder justement certaines images ou figures un peu figées sous un nouvel angle. Donc moi, c'est vrai que mes fées, je peux pas trop en dire non plus, parce que c'est un peu spoiler pour la seconde moitié du roman, mais mes fées ont un côté un peu... J'ai voulu les traiter en fait comme des divinités qui sont craintes, redoutées par les peuples qui les vénèrent, et qui finalement aussi un petit côté vampirique, dans le sens où elles sont vénérées dans le sang, si je puis dire, hein, pour faire court, parce qu'il y a des sacrifices, etc. Donc en fait, elles-mêmes ne sont pas des vampires, mais finalement le culte qu'on leur rend peut s'apparenter à ça, et justement, on en parlait aussi de l'image que renvoient les monstres en général. Là justement, c'est l'image même qui est projetée d'elles à travers leurs fidèles, qui justement façonne presque leur nature indirectement. Et c'est vrai que moi, je les ai abordés plus comme des créatures, on va dire, animales, qui n'ont justement rien à voir avec l'image à laquelle on s'attend. Et une nature animale, prédatrice, et très liée aussi à la nature, au chaos un peu primordial, si je puis dire. Et voilà, c'était mon angle de travail principal là-dessus. Comme dans Poussière fantôme, j'ai essayé de revisiter la figure classique du fantôme, du revenant ou du spectre, ou de l'esprit frappeur, ou je cherche encore des synonymes. Mais enfin voilà, tout ça sous un angle un peu original, quoi. Enfin, j'ai essayé pour éviter le concept de la personne sous un drap qui fait ouh ouh avec un boulet au pied. Donc voilà, je pense que c'est c'est peut-être, pour revenir à l'hybridation, c'est peut-être entre la nature même de la créature elle-même, du monstre, et puis l'hybridation se fait avec son image qui est renvoyée dans le regard d'autrui. Voilà ce que je pourrais dire.
Puis beaucoup de monstres sont extrêmement beaux, même si c'est... Alors les vampires, ça, on les voit souvent au cinéma, et ceux d'Anne Rice, effectivement, sont extrêmement séduisants, mais les loups-garous aussi, et ça peut être vraiment une partie de la métamorphose, ou après la morsure, ou une griffure, justement, le personnage va se sentir bien dans son corps, et va se transformer peu à peu. Alors il y a le passage animal qui peut être moins séduisant s'il est extrêmement velu, et la monstruosité, c'est de l'ordre moral interne, c'est là la malédiction de certains garous. Et pour l'hybridation, ça peut ne pas être une malédiction, comme dans L'heure du loup de Robert McCammon, où lui, il va être capable, pendant la Seconde Guerre mondiale, de mettre ses dons de lycanthrope ou de garou au service de bien des personnes pour pouvoir les sauver, et même ne pouvoir transformer que son bras, sa main. D'ailleurs, ça passe souvent chez les loups-garous par la perte de la main qui se transforme en patte. Donc là, ça serait la perte de l'humanité, mais chez lui, il en fait une force, et c'est une créature hybride.
Ces thèmes de l'hybridation dont vous parlez, Emmanuel et Barbara, ça me parle beaucoup, et je me rends compte que c'est ce que j'ai exploré dans mes deux premières séries. Alors, je ne veux pas spoiler non plus sur Jack Spark, mais l'effet, c'est vraiment au centre aussi de l'histoire que j'ai voulu raconter. Dans la deuxième, Animal, on est plus sur des figures de métamorphose animale, de garou. Mais pour revenir aux fées, C'est vrai qu'on en a une vision à la Disney aujourd'hui très édulcorée, mais quand on remonte aux contes d'origine, c'était des êtres à craindre, des êtres redoutables. Voilà, la fée Carabosse chez Perrault et d'autres encore. Et si on remonte encore plus loin, les fées, ce sont les descendantes des divinités de l'Antiquité. Et sur la question de l'hybridation, on parlait du côté humain, animal, du côté monstrueux, merveilleux. J'ai la fée Mélusine qui me vient en tête, qui est justement, je ne sais pas si vous connaissez la légende, c'est cette femme très très belle, qui est une fée en fait, mais on ne le sait pas, qui va séduire un châtelain, devenir sa femme et lui donner des enfants. Mais il y a une condition, c'est que tous les samedis, elle doit prendre son bain seule dans sa chambre, enfermée à clé, et personne ne doit la voir. Et bien sûr, je crois que c'est le fils ou même le châtelain lui-même qui, tenté par la curiosité, va regarder par le trou de la serrure et va se rendre compte que, pour le sabbat, donc tous les samedis, elle se transforme en serpente à moitié. C'est-à-dire le haut du corps reste celui d'une femme et en revanche, elle a une queue de serpent qui à la place de ses jambes. Donc on est vraiment sur cette hybridation entre le merveilleux, la fée en haut, et le monstrueux, la serpente en bas. Et sur ce côté, séduction et répulsion en même temps. Et ça, je trouve que c'est ça qui est vraiment fascinant dans le monstre, qu'on retrouve après dans les vampires et dans toutes les incarnations du monstre.
Ce qui est intéressant, c'est les monstres fabriqués aussi, qui sont intéressants. Pour l'humanité n'a apparemment pas assez, dans son imaginaire, de monstres hybride, mais d'un seul coup, il y a le côté savant fou qui va fabriquer des chimères. Et ça, c'est intéressant aussi, ce thème-là est intéressant. Mais on peut pousser beaucoup plus loin, enfin, la métaphore. En ce moment, notre société, par exemple, est absolument accro au tatouage. Est-ce que ce n'est pas une forme de monstruosité que l'on s'auto-inflige à soi-même ?
Que répondre à ça? Non, bah après c'est oui, bah j'imagine, bah je sais pas parce que là je débarque du Canada où en général c'est, enfin au Québec notamment c'est beaucoup plus accepté, enfin même si maintenant ça a bien changé en France, mais oui c'est vrai que parfois on peut être mal vu pour ses tatouages, ça dépend les circonstances ou la personne qu'on a en face de soi. Oui, peut-être le tatouage. J'espère que ce n'est pas un sous-entendu. Mais oui, effectivement aussi. Après, ça dépend de ses goûts artistiques. Oui, je ne sais pas. Moi, j'imagine qu'il peut y avoir aussi une revendication selon ses motivations. Mais effectivement, ça peut être une façon aussi Oui, on peut voir le regard changer. Par exemple, moi, j'ai déjà vu le regard des gens changer, selon que j'étais en manche longue et puis j'enlève ma chemise, par exemple. Et là, c'est gentil. J'ai beaucoup travaillé. Et oui, effectivement, ça peut être quelque chose de révélateur. Oui, peut-être.
Au-delà du tatouage, j'ai l'impression qu'il y a tout un courant de l'art contemporain, le body art, qui justement par la chirurgie esthétique, par des opérations, essaye de changer l'esthétique du corps humain en se mettant des cornes. Il y a l'artiste Orlan, par exemple, elle est spécialisée là-dedans, elle s'est mise des cornes, elle s'est cassée le nez pour faire un profil aztèque, et elle filme toutes ses opérations en dessinant les costumes de ses chirurgiens, assez baroques. Je crois même qu'elle fait ça sans anesthésie, donc ça relève vraiment de la performance. Donc là, on essaie vraiment de repousser les limites de ce qu'on considère comme humain ou monstrueux, parce que c'est une femme, c'est une artiste, et elle nous présente comme ça son corps métamorphosé, transformé, monstrueux peut-être pour certains, mais pour elle, esthétique et beau.
Ça me fait penser au choix aussi. Souvent, la monstruosité, l'hybridité, etc., dans ces créatures, c'est vécu comme une malédiction. C'est quelque chose qui arrive à quelqu'un, ou alors c'est de naissance et on n'a rien à y faire. Mais vous parliez, par exemple, de démutation, de votre personnage qui découvre qu'il est mutant. Donc c'est aussi quelque chose qui se passe. On essaye de le rééduquer, on essaye de le, je sais pas, de démutantiser, je sais pas comment dire ça. Alors on parle de peau, c'est toujours très charnel, c'est la transformation, ou alors c'est dévorer quelqu'un, c'est toujours très, très physique, très charnel, les vampires, le sang, etc. Alors cette question de choix, de découverte avec votre, par exemple votre personnage ou même les autres, si on choisit de devenir différent, de devenir monstrueux.
Alors, il y a deux aspects dans votre question. Il y a le côté charnel, le côté physique de la transformation. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'aspect hybridation, hein, c'est la métamorphose de Kafka, c'est c'est les films de Cronenberg, la mouche, c'est comment physiquement le corps se transforme. Et puis derrière, peut-être plus profondément encore, il y a la question de l'identité. Et ça, c'est peut-être aussi au cœur du monstre, c'est-à-dire, et du choix. Est-ce qu'on décide qui on est ? Est-ce que c'est une donnée avec laquelle on est ? N-A-I-T, pardon. quelle est la marge de manœuvre, en fait, pour définir son existence ? Et le monstre, forcément, comme c'est un paroxysme, ça pose cette question avec extrêmement d'urgence. Est-ce que le monstre, il est né monstre, il restera monstre par la force des choses, ou est-ce que par des choix existentiels, il peut décider de ne plus être monstre, de devenir normal, ou au contraire d'assumer sa monstruosité et de la développer d'une manière ou d'une autre ?
Même après, on a les...
Est-ce que c'est une essence ou est-ce que c'est existentiel ?
Ou même on a les créatures qui sont plus exactement humaines, qui voudraient bien devenir monstrueuses, mais qui ne le sont pas et qui on le refuse, par exemple les ghouls. On a toujours dans les histoires de vampirisme, c'est l'humain qui veut devenir vampire, qui se fait mordre mais pas transformer, qui voudrait bien être un vampire, on sait pas trop pourquoi. Alors est-ce qu'il veut devenir plus puissant, plus monstrueux dans vos anthologies, comment vous traitez ça ?
Je voulais parler d'un exemple qui n'est pas du fantastique, qui est de la science-fiction, mais qui est Blade Runner, où les réplicants finalement sont considérés comme des monstres et eux n'aspirent qu'à une chose, c'est la redevenir humain et la normalité. Et avec cette fameuse tirade, j'ai vu des choses qu'aucun humain n'a encore vues, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un beau thème. Ce film-là est superbe du point de vue traitement de quelqu'un qui est considéré comme monstre et qui veut devenir absolument normal. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, tous ceux qui sont considérés comme des monstres par des infirmités ou par une beauté qui rentre pas dans les canons essayent d'être la normalité. Et de toute façon, la société n'avance qu'à la marge. C'est toujours des particularités qui font que ça avance. Au début, ça heurte, et puis finalement, il y a l'acceptation, et d'un seul coup, le cercle de la société s'agrandit comme ça.
Moi, pour revenir à ce que tu disais, Victor, ça m'a fait penser à un de mes romans préférés, Animalité de Whitley Strieber. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et là, en fait, le loup-garou, c'est vraiment, il y a toute l'hybridation, c'est vraiment une étape transitoire. Il va dans un zoo et croise le regard d'un loup. Et puis, quand j'ai fait mon doctorat, en fait, je me suis vraiment appliquée à étudier toute la métamorphose, tous les mots qui allaient avec. Et là, il va rêver de loup. Il va avoir l'impression d'abord, je crois, d'avoir un loup dans le ventre, de fusionner avec lui. Il va se transformer en loup et c'est fort embêtant pour sa femme et son fils, même s'il peut répondre aux questions encore en tapant deux coups avec la patte ou une fois. Et il va accepter finalement cette métamorphose, rencontrer des Indiens et aller au Canada, donc je pensais à ton thème aussi, et mettre son intelligence humaine au service des loups pour que les loups puissent continuer à subsister. Et donc si à un moment donné il devient un loup-garou et peut devenir avoir des pulsions effectivement qui peuvent être effrayantes, il va digérer ça et fusionner avec l'animal pour être à la tête du clan des loups. Et sa femme et son fils, peut-être, le suivront. Il faut lire la suite. Mais en tout cas, c'est un des plus beaux romans que j'ai lus. Et là, il y a évidemment toutes les métamorphoses, tout le questionnement sur l'identité. Souvent, ça passe chez les loups-garous par des cauchemars où ils ont vécu justement, où ils ne s'en rappellent pas, comme dans Le Galou de Claude Seignolle. Il y a un narrateur à la troisième personne, et puis il y a le galou qui raconte à la première personne, et il va s'apercevoir à la fin, en même temps que nous, de son identité. Donc il peut y avoir la perte d'identité, ça peut être effectivement une malédiction, comme être une seconde naissance et en faire autre chose, qui peut aller de plus en plus, chez certains surhommes, dans les vampires ou loups-garous, où il n'y a plus cette notion de meurtrier sadique, vers une espèce supérieure à la nôtre, et une transition.
N'oublions pas Elephant Man, par exemple, aussi, avec cette monstruosité qui était à la foire, mais... qui avait beaucoup de succès au 19e, où il fallait aller voir le géant, le Lilliputien, la femme tronc, la femme à barbe, par exemple, aussi. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les freak shows. Ouais. Et justement, freak, c'est monstre.
Okay. Donc ça, c'était intéressant. Bon, on s'aperçoit que maintenant, la société corrige aussi. Bon, moi, j'ai privilège de l'âge, si c'est un privilège, bon, dans les classes, dans ma classe, d'un enfant qui avait un bec de lièvre et un autre qui avait un pied baume. Maintenant, tout ceci est corrigé très, très vite à la naissance. Et ces enfants-là n'ont pas à subir les colibés qu'ils subissaient à longueur d'année dans leur scolarité.
Alors, je ne sais pas, on a un quart d'heure. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions dans le public ? Je vous vois... je vous vois très... Allez. Mmh. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, elle se pose la question de l'évolution, de la transformation, l'évolution humaine, en donnant l'exemple des X-Men. Est-ce que c'est une nouvelle espèce ? Qui est encore humain, qui ne l'est plus, qui a des pouvoirs qui sont du coup surhumains ? Linguistiquement, c'est aussi intéressant. C'est pas un humain différent, c'est plus qu'un humain. Alors vous avez des mutants, alors allez-y.
Oui, mais ce qui est intéressant dans cette question, c'est que jusqu'à présent, on a parlé du monstre individuel, donc vraiment d'un être par rapport au reste du monde, au reste de la société. Et là, on parle d'une évolution d'une espèce. Donc le monstre en tant qu'espèce ou que... diversion évolutionniste d'une espèce. Alors, dans les X-Men, on ne sait pas trop d'où viennent les mutations, ou alors il y a peut-être des explications scientifiques, mais ce qui, dans notre monde, se rapproche le plus de ça, il me semble, c'est le transhumanisme, dont on parle de plus en plus. Ce sont des scientifiques qui pensent par la technologie pouvoir repousser les limites de l'être humain jusqu'à un point où ça ne serait plus un être humain, ça ne serait plus l'homo sapiens, ça serait l'homo quelque chose d'autre, en allongeant la durée de vie, avec les télomères par exemple dans les chromosomes, mais aussi par des prothèses technologiques de plus en plus poussées, la nanotechnologie et autres. Donc peut-être que la question de la monstruosité va se poser à nous dans l'actualité assez prochaine à travers le transhumanisme. Pour l'instant, c'est un phénomène émergent, mais je pense qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur et qu'il va devenir un vrai débat de société.
Oui, c'est vrai. Par contre, par rapport au transhumanisme, c'est vrai qu'il y a peut-être une notion de choix aussi qu'on retrouve pas, par exemple, dans les X-Men, où c'est vrai que c'est aussi un questionnement sur le fait que pourquoi c'est sur moi que ça tombe, parce que c'est quand même un moteur souvent de l'intrigue dans plusieurs arcs du comics. Et puis là, on se rapproche peut-être aussi, je connais beaucoup moins le sujet, bien sûr, mais de la figure du loup-garou, où en général, une fois qu'on est mordu, il faut faire avec, et c'est plus vraiment un choix.
Il y a une évolution aussi sur le monstre, à la limite. On pouvait considérer il y a quelques années que l'homme de Cro-Magnon était une espèce d'erreur, et puis un être frustre et tout. Puis on commence à s'apercevoir qu'à l'intérieur de nos gènes, il y a 20 ou 30% de Cro-Magnon en nous. D'un seul coup, on les regarde différemment. On se dit, ah oui, finalement, c'était pas mal. Donc on évolue aussi. Il y a les monstres, comme tu disais. Avant, ils n'étaient considérés que dans le rôle de méchant, de tueur et tout. Et maintenant, on les considère autrement, comme une espèce un peu à part, mais qui peut amener un peu plus à l'humanité.
Et dans le traitement littéraire aussi. Et il y a Jean Marigny dans la salle, donc il connaît à fond le sujet. Où au 19e siècle, on parle du monstre à la troisième personne. C'est pour ça que Dracula n'a pas la parole. C'est des lettres, des journaux intimes. Et lui, il n'a pas la parole. Du coup, en lui donnant pas la parole, ça le rend encore plus monstrueux et plus éloigné de nous. Et si on revient à Anne Rice, eh bien là, c'est des entretiens. Ça peut être un interview, ça peut être un livre, ça peut être un concert de rock. Et on va vraiment avoir toutes les pensées du personnage. Et c'est vraiment elle qui a révolutionné ça. Alors, au niveau des vampires, mais peut-être ça a influencé aussi d'autres auteurs. Ou si on est dans leurs pensées, si on arrive à comprendre qui ils sont, on peut même s'identifier à certains de leurs côtés qui finalement sont encore plus humains parce qu'exacerbés dans toutes leurs craintes et dans leur désir de continuer, d'avoir un compagnon, et comment est-ce que c'est possible quand on a ces différences-là et comment vivre avec.
Je ne sais pas, est-ce qu'on a des autres questions, pas forcément sur les mutants, les fées, loups-garous, les vampires. Dans le titre, on a « autres créatures », alors on peut se permettre tout ce qu'on veut, j'imagine, mais... Les robots, intelligence artificielle, les émotions des robots, ouais. Alors, ça va donner quoi, les robots avec des émotions?
Des super robots que l'espèce humaine voudra faire à plier à leur volonté sexuelle, par exemple. Ça peut se faire aussi. Mais y a les robots ne sont que l'image de nous-mêmes aussi, puisqu'ils vont être programmés. Il va falloir qu'il y ait un auto-apprentissage pour qu'ils arrivent à dévier par rapport à ce qu'on a mis. Parce que si on ne fait que des programmes, les robots vont faire exactement ce qu'on leur a dit de faire. Bon, s'il y a des gens qui leur font un programme maléfique, pas vraiment en règle, ça sera aussi ça. Mais sinon, ils ne vont pas évoluer. Ils vont évoluer que lorsque leur intelligence sera supérieure à la nôtre, ce qui ne va pas tarder, et qu'ils vont rentrer dans une phase d'auto-apprentissage de la vie, et donc de voir comment nous on réagit et peut-être eux de réagir différemment. À ce moment-là, ça sera intéressant.
Effectivement, sur le robot, pour revenir au côté séduction, répulsion, sur l'image même du robot, il y a des expériences qui ont été faites récemment par des psychologues. C'est de mettre des gens comme ça face à des robots plus ou moins ressemblants à l'humain. Donc quand le robot est très mécanique et c'est évidemment une machine, il n'y a aucun problème. C'est comme si on était face à un jouet, il n'y a pas de problème émotionnel. En revanche, quand le degré de ressemblance s'approche de l'humain, là, le malaise grandit. Et c'est mesuré à travers le rythme cardiaque, la tension des personnes et des questionnaires. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à créer des androïdes qui soient la réplique totale d'un humain sans aucun détail qui dénoterait sa nature mécanique. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le fait que plus on tend vers une ressemblance vers l'humain, plus notre degré d'inconfort grandit. Parce que la monstruosité, elle est peut-être là aussi. C'est dans la proximité de quelque chose qui semble humain mais qui ne l'est pas complètement. Alors que si c'est complètement différent de nous, on n'a pas une réaction aussi instinctive, aussi épidermique.
Oui, parce qu'ils vont nous ressembler de plus en plus physiquement, mais ils vont nous être supérieurs de plus en plus. Et c'est là que le malaise s'installe. Oui, Terminator. Oui. Bon, ce silence est monstrueux.
Bon, monsieur. Ah, monsieur, ouais. Donc, monsieur, on a parlé de créer des robots donc, qui ressemblent de plus en plus aux humains. Monsieur nous parle d'utiliser ces technologies pour créer des monstres, pour créer des vampires, des loups-garous, comme Jurassic Park avec les dinosaures, ou comme on crée un mammouth laineux. Alors, qui est le monstre? On parlait de la créature de Frankenstein aussi, du choix. Est-ce qu'on a un humain qui devient un monstre, les mutants, etc. Alors, si on se met à créer des monstres, qui du coup vont exister, vont être là en face de nous dans notre réalité, on n'est plus dans la fantaisie. Je sais pas, je trouve ça super intéressant en fait, c'est une super question.
L'espèce humaine a toujours adoré créer des choses absolument abominables en armement, donc ça fera partie de l'armée, ça, hein, ça n'ira aucun problème. Ils ont tout essayé, hein, pendant la dernière guerre, les Américains ont essayé de mettre des pétards sur le dos des chauves-souris pour aller incendier les baraques au Japon. Donc ils s'y sont bien pris, puis après ils ont envoyé un avion, mais dans l'avion il y a une cage qui s'est ouverte et les chauves-souris ont commencé à mettre le feu à l'avion, donc ça s'est arrêté là tout de suite. Mais bon, donc l'homme n'a pas de limite dans ce domaine-là. Ce qui peut être intéressant, c'est l'utilisation du monstre, de quelqu'un qui nous paraît complètement monstrueux, mais qui sera peut-être, ce seront peut-être ces seules personnes qui pourront aller dans l'espace et rester très longtemps dans un vaisseau en tant que pilote. Alors que les humains deviendraient complètement fous. Peut-être qu'une certaine race d'autistes seront capables d'être les pilotes de nos vaisseaux qui mettront 3-4 ans ou plus ou beaucoup plus pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de la Terre à une planète qu'on va peut-être trouver un de ces quatre. Et peut-être que c'est les seuls qui pourront supporter le voyage. Voilà l'utilisation du monstre.
Oui, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Après, il faut voir que les chauves-souris, c'était quand même, faut penser plus grand. Je veux dire, c'est avec la science, on pourrait peut-être créer carrément des dragons, hein, tant qu'à faire. Ça serait comme ça, la fantaisie dépasserait, enfin la réalité dépasserait la fiction. Ouais, non, je pense qu'il y a des choses à creuser dans ce domaine, surtout si on les équipe, je sais pas, de lance-missiles. Là, ça devient vraiment intéressant. Moi, bon, je crois que j'ai trouvé ma prochaine idée de livre. Donc,
trop tard, Xavier Mauméjean l'a fait.
C'est vrai que c'était en 54, je suis une légende. Et déjà, là, c'était pour dénoncer certains progrès scientifiques qui ne seraient pas du tout des progrès. Et c'est effectivement des thèmes de science-fiction très intéressants et effrayants. Et sinon, pour l'idée qui m'est revenue, là, c'est d'une nouvelle où, en effet, il n'y a plus que des robots va atterrir sur une planète, Dracula. Et qui est en effet le seul qui a des caractéristiques encore humaines. Bon, après, je ne sais pas de quel sang il pourra se nourrir, mais c'est le seul qui a encore un caractère, une apparence humaine et des caractéristiques humaines.
Du coup, est-ce qu'il est encore le monstre, s'il est...
Visiblement, sans doute, oui.
Est-ce qu'on a peut-être une question pour... Ah, Sophie, ouais.
Oh là, la réponse est très simple.
Je vais juste
les
poser
humains.
La question pour les. Je suis désolée pour les gens qui ont peut-être pas entendu. On a dit que le monstre c'était toujours le monstre de quelqu'un d'autre. Donc dans chaque société crée ses monstres. Pour notre société là maintenant, dans 200-300 ans, ce sera qui notre monstre à nous?
Donc je réponds les humains. Pourquoi? Parce que dans la société dans 200-300 ans, on ne mangera certainement plus de viande et on parlera d'une époque où on était capable de tuer. Par principe de précaution, quelques millions de poulets, de canards, de bovins, simplement à cause de maladies et tout. Les gens comprendront même pas notre société. Comment on a pu faire ce genre de monstruosité?
Vous voulez finir ou...
Non, je suis d'accord avec toi. Après, il peut y avoir aussi... Internet, qui peut aussi peut-être apparaîtra peut-être plus tard comme une monstruosité parce qu'il y aura d'autres formes de communication, de réseaux sociaux où les gens se battent. C'est peut-être, effectivement, il y aura tout un côté du côté humain qu'on vit aujourd'hui qui apparaîtra sans doute totalement monstrueux.
Une autre idée, alors donc, on vit dans une terre de plus en plus fatiguée, dans des conditions de plus en plus terribles. Et la seule porte de sortie qui va y avoir, puisque pour l'instant la porte de sortie vers l'espace, on n'y arrive pas, ça va être le virtuel. Où là, chacun pourra être le monstre qu'il veut dans ces mondes virtuels. C'est beau, hein ?
C'est beau, maman.
L'effet.
Enfin, moi, je rejoins sur Barbara. Je pense que la monstruosité technologique, c'est sans doute ça qui caractérise le plus notre époque, à travers ce qu'il peut y avoir de déshumanisation, même lorsque l'apparence du contact humain est préservée, comme dans les réseaux sociaux, et qu'on a des affrontements anonymes extrêmement violents. Et on peut imaginer un mode de communication futur beaucoup plus pacifié si l'humanité elle-même évolue moralement. Et là, le regard qu'elle portera sur une certaine partie d'Internet sera, je pense, assez critique.
C'est très déprimant, mais je crois qu'on va devoir garder ça comme mot de la fin. Bon, à moins qu'il y ait vraiment une dernière question, mais je ne vais pas non plus trop vous pousser. J'ai l'impression d'embêter mes étudiants, là. Donc, je pense qu'on va en rester là. Je voudrais qu'on remercie nos quatre intervenants et je vous invite à lire leurs histoires et à découvrir leurs monstres. Comme ça, vous vous sentirez peut-être un peu moins triste, je ne sais pas. Moi, ça m'a donné envie d'en lire encore plus. Donc, je voudrais vous demander de les remercier. Je vous remercie, vous, d'être venus et de les avoir écoutés. Bon après-midi.